Bonjour Christian Besson. Merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu du travail de Seth Siegelhoff. Donc là, nous faisons, on pourrait même parler un peu du cadre dans lequel on est, puisqu'on est dans l'arrière-fond du lieu d'exposition de l'École des Beaux-Arts de Genève. Et on est en fait juste à quelques heures d'une conférence de Seth Siegelhoff à Genève, où il sera question bien évidemment d'édition et aussi un peu de droit. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous donner comme quelques points de repère historiques sur la figure de Seth Siegelhoff?
C'est un personnage tout à fait fascinant, au moins parce que il a été une espèce de star qui a brillé comme ça un temps très très restreint sur la scène artistique, et puis qu'il s'en est éloigné volontairement pour faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne le croisait pas dans certains vernissages, mais disons qu'il n'était plus un acteur direct de l'art contemporain. Je crois qu'à un moment, il a même été éducateur. Et je trouve que cette position, d'ailleurs, qui a été celle de pas mal d'artistes ou d'acteurs de l'art dans l'après-68, qui est allée de l'abandon momentané à l'abandon définitif pour certaines personnes, est toujours quelque chose qui, en tant que geste politique, m'a toujours intéressé. Et Ziglobe est parmi ces personnages.
Tu penses...
Quelqu'un qui aurait pu avoir une place extraordinaire sur la scène artistique, disons bêtement faire beaucoup d'argent, et qui s'en retire volontairement.
Mais concrètement, est-ce que tu penses que ces choses-là étaient par exemple en germe dans son travail d'édition? Est-ce que tu...
Il le dit lui-même dans des entretiens, il a toujours été fasciné par l'édition. C'était un contexte, celui de la fin des années 60, où émerge et monte en puissance le livre d'artiste en même temps que l'art conceptuel. Enfin, les premiers livres d'artiste en tant que tel, on ne parle pas du livre d'art, bien entendu, mais du livre d'artiste qui est le petit fascicule publié en offset et qui était censé être à tirage illimité. Il y avait aussi là un geste politique qui était de ne pas produire de la plus-value sur le livre d'art. Hein, l'offset, c'était on en éditait 1000 exemplaires et puis on pouvait les rééditer. En fait, l'histoire a montré que le système de l'art s'est emparé de ça et qu'aujourd'hui, les petits livres qui sont sur la table aujourd'hui coûtent la peau des fesses sur le net et que ça n'a pas été réédité. Mais je pense que c'est contraire à l'intention politique du départ, qui était de faire du petit livre d'artiste pas cher. Alors, dans cette ambiance des années 60, je crois que le premier petit livre d'artiste d'Edouard Rouchet commence c'est 26 Kesavan Station, c'est 63. Donc, il y a une antériorité de gens qui ne sont pas des artistes d'art conceptuel. Boucher, c'est quelqu'un qui, à l'origine, vient du pop art. Il est intéressé par l'image. Hein. Du coup, il y a aussi l'antériorité de Fluxus là-dedans, qu'il faut qu'on oublie toujours, parce que quand on est en temps Burlot ou Claude Jeans, on a l'impression qu'il y a un début de l'art conceptuel comme ça. Je veux dire, même le terme art conceptuel, c'est quand même un artiste Fluxus qui le lance, même s'il ne fabrique pas de l'art conceptuel. Mais il y a l'idée de faire dans les statements de George Brecht, les choses comme ça, et l'idée de faire des petits gestes, il y a déjà l'idée d'énoncer, hein, qui va être au cœur de la production de l'art conceptuel. Donc, pour le petit livre chez Siglo, pour en revenir à votre question, c'est quelque chose qui effectivement fait partie d'une ambiance d'époque et qui va être constitutif du geste de l'art conceptuel.
Et est-ce que tu penses que cette ambiance d'époque, elle a très, elle est complètement novatrice ou elle est détachée de toute tradition de diffusion d'artistes? Puisque si tu lis les textes de Siglo, il revendique la production d'un nouvel objet, d'accord, qui serait, et on va sûrement y revenir en parcourant les livres, qui serait même plus que des livres d'artistes, puisque ça se présente jusqu'à un certain point comme étant le siège même de l'art, donc l'exposition, voire l'œuvre elle-même. Qu'est-ce que toi, Est-ce que tu penses que c'est complètement détaché du reste ou est-ce que tu penses juste que c'est à un certain moment la pensée globale d'un certain basculement, d'un changement de paradigme et qui fait que ces objets sont en concomitance exacte avec les questions que se posent les artistes à ce moment-là?
Ben, c'est par rapport à Fluxus, si on veut faire cette comparaison, il y a un surinvestissement théorique qui fait que le geste chez les artistes qui intéressent Ziglob et chez lui-même prend une dimension théorique. C'est l'histoire de Kossuth qui dit que les œuvres d'art importantes sont celles qui remettent en question les idées préconçues de l'art. Hein. C'est-à-dire que il y a une prétention à remettre en question les fondements, l'idée de l'art, les pratiques, le dispositif artistique en général. Chez les artistes Fluxus, il n'y a pas ça. Une fois que Massenet a dit que l'art est jeu, on est d'accord sur ce terrain d'entente, et puis on joue à l'intérieur de cette définition. Alors que chez les artistes conceptuels, chez Ziglob, il y a l'idée que à chaque geste, on remet en jeu cette idée de l'art. Donc on va produire une spéculation sur l'idée de l'art. Et je crois que cette dimension théorique ou théoriciste, si on veut faire de mauvais jeux de mots, c'est pas moi qui l'ai inventé, elle fait la différence.
Et donc tu penses effectivement que cette Ziglob a un statut particulier, comme qui n'est ni réellement un intermédiaire, ce que pourrait être un éditeur, ni réellement un directeur de musée ou de publication, mais quelqu'un qui serait dans une... à la limite de l'artiste.
Ouais, je sais pas, c'est comme si on dit que Zeman est un artiste, enfin bon, après c'est s'entendre sur les mots, comme dirait Wittgenstein. Le livre d'art et la place du commissaire, comment on dit maintenant, curateur, elle est importante parce qu'en fait, il saisit une ambiance qui est justement l'importance de la publication, l'importance de ce support où sont recueillis des énoncés, et la tendance qui sera aussi dans le livre de Lippard et Chandler, l'article de Lippard et Chandler sur la dématérialisation de l'art. C'est-à-dire que si on conçoit que l'art est dématérialisé, on discutera de ça après, effectivement, mettre un énoncé en exposition ou le mettre dans un livre, ça a la même valeur en tant que geste artistique. Et Ziglob, il va être l'éditeur d'un certain nombre d'énoncés des artistes qu'il aime, Hubler, Kossuth, Wiener, Barry, je ne sais pas qui j'ai oublié. Voilà, il prend sa place là-dedans parce qu'il y a cette idée que le geste artistique est dématérialisé et que si c'est l'énoncé qui compte, le support papier, la diffusion par livre imprimé en offset à nombre d'exemplaires illimités, ça devient une forme de manifestation artistique possible. Et il a sa place en tant qu'éditeur. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il a toujours été édité et intéressé par l'édition, et d'une certaine façon, il a édité. Je crois que... Enfin, il organisait des expositions, certes, mais le moment de l'art conceptuel, son rôle, c'est effectivement un rôle d'éditeur.
Donc le supplément d'âme n'est pas forcément nécessaire. Le supplément qui tente à dire que, je ne sais pas, certaines... Enfin, il y a cette espèce de mythe sur des objets dont on aurait exigé d'abord la parution du livre avant de produire l'exposition, ou ce jeu sur des objets qui sont eux-mêmes le centre de l'exposition. Tout ça, ça te paraît être juste lié à la nature même des objets dont on tente de se saisir à ce moment-là, qui sont ces objets dématérialisés, et pas autre chose qui serait en jeu.
Non. Alors justement, c'est le problème de la dématérialisation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a tenté de démontrer avec Valérie Mavridorakis et Angèle Lessu quand on a fait l'exposition sur les images de l'art conceptuel au MAMCO, c'est que d'emblée, en fait, il y a des images de l'art conceptuel, il y a des supports privilégiés, il y a des formes, il y a un style, il y a un air du temps de l'art conceptuel. L'intelligence de Zieglob, c'est de mettre en forme ça, c'est-à-dire une partie de la manifestation, non pas le cadre de Hublot avec les photos qui sont au mur, mais le produit édité. Il le met en forme, il choisit une typographie, il forme des rythmes dans un livre, le format du livre qui est petit, qui est, apparemment ne coûte pas très cher parce que c'est que quelques pages, c'est très aéré. C'est censé transmettre des idées, et là, il aide à la mise en forme de cette version édition de l'art conceptuel. Là, il joue un rôle très important. Donc, c'est quand on dit dématérialisation, qui est l'idéologie de l'époque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des formes et des manifestations matérielles, et que là, vraiment, les artistes ont fait des choses. Ils ont fait des choses matérielles, photos, textes encadrés, etc., ou textes écrits au mur, photos, textes publiés dans des petits livres, format du livre, typographie, rythme des pages, tout ça, c'est une production plastique. Et Zieglob a contribué à ça, alors il a son rôle là-dedans, oui.
Donc ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait, par exemple, regarder un certain nombre des objets que tu as amenés?
Oui, ben le premier en date, c'est le catalogue de Douglas Hubler, qui remonte à novembre 68.
Donc ça se présente comme un catalogue d'exposition, non? Sauf erreur. Au départ.
Oui, c'est un catalogue des œuvres de Zieglob qui sont rassemblées.
Des œuvres de Hublin.
De Hublot, pardon, qui sont rassemblés dans cette publication. J'ignore concrètement, puisqu'il avait un espace d'exposition, s'il y avait une exposition en même temps, mais enfin, peu importe, c'est un catalogue. C'est un catalogue qui rassemble plusieurs œuvres, et d'une certaine façon, bon, l'aspect conceptuel avec les énoncés, les photos, tout ça est très présent, et on peut dire que c'est le premier. La première publication d'art conceptuel, mais en même temps c'est un catalogue au sens traditionnel du terme, puisque les œuvres se succèdent les unes après les autres, et j'aurais un doute pour qualifier ça de livre d'artiste, par exemple. Je trouve que ça reste un catalogue quand même.
D'accord. Alors après, quand on avance un peu dans la chronologie.
Alors, je crois qu'immédiatement après, il y a l'aventure du Xerox Book.
Alors là, pour le coup, on est
Alors,
vraiment dans un
c'est,
autre.
il demande à cet artiste, donc Carl André, qu'on peut rattacher à l'art conceptuel, mais bon, Robert Barry, Douglas Hubler, Kossuth, Sol Lewitt, Robert Maris et Laurence Winner. Il leur demande 25 pages qu'il va rassembler. Il fait une espèce de compilation de livres. Chaque artiste est libre de ces 25 pages. Les 25 pages sont censées être une proposition artistique.
Il y a même
Et
pas de, il y a même pas de, de, on ne voit pas le passage d'un artiste à l'autre, non? Ou
non,
il y a une
on le
entre.
voit en regardant la
On est
tranche.
d'accord, mais.
Parfois, on devine qu'on passe d'un groupe de 25
Mais il y a
pages à
même pas
l'autre.
de. Ah
Il
oui,
y a à chaque fois
une page.
juste le nom avec une typographie très lettre bâton, très simple. Et puis sur la première page, le nom des artistes. Première édition, 1000, décembre 68. Copyright, Seth Zieglob et John Wandler. Donc, qui était un associé galériste, tout droit réservé, etc. Zieglob Wander, New York. Alors, pourquoi Xerox? C'est parce que c'est l'apparition à cette époque de la photocopieuse qui va donner lieu dans les années 70 à des exercices dans les écoles d'art qu'on appelait copy art, où on posait ses fesses sur la photocopieuse ou ses nichons. Ça a été un grand classique de l'époque. Donc là,
Plus évident que sur le fil de Sericho.
qui n'était pas très conceptuel. C'est l'utilisation. Donc à la base de l'idée, c'est l'utilisation de ce nouvel outil de production, d'édition, qui est la photocopieuse. Mais alors, j'ai discuté hier soir avec Mathieu Copland, sous toute réserve. Il semblerait que la photocopieuse était en panne et que finalement on a utilisé un autre mode d'édition. Alors, il faudra interroger demain Zieglob là-dessus. Je relève curieusement que dans un entretien, il dit que son projet, c'était de rassembler ses projets d'artistes et de les photocopier et de les imprimer. Pourquoi il rajoute imprimer après photocopier? Donc j'en sais pas plus. Le mystère demeure, il sera éclairci demain grâce à la présence de cette Ziglobe. Voilà.
Non mais là, si on rit un peu sur ce détail, c'est que effectivement, pour le coup, ça produit un type. Toi, tu énonces, tu parles de style, mais ça produit en tout cas une espèce de forme comme ça, qui est dans le format des objets, dans la texture des noirs et tout ça, qui n'est pas, pour le coup, pour revenir à Fluxus, la texture qu'on obtient quand on fait des séricots, même de qualité merdique. Dans un atelier de sérigraphie, on n'a pas la même qualité d'aplat, on n'a pas les... ça produit quand même quel... Non ?
Oui, ce qui est flagrant, c'est par exemple la contribution de Robert Morris, où on voit très bien qu'il y a ce gris en fond qu'on obtenait avec les photocopieuses où la page apparaissait grise en sortant, alors même qu'on avait mis du bidon dessus, ou l'imprécision de la typographie qui est restituée dans les, par exemple dans les statements de Hubler, où il raconte comment il a pris ses photos, là, la lettre est mangée, enfin bon, on devine que ça a été fait. Bon, c'est une esthétique, c'est-à-dire c'est une esthétique cheap, c'est une esthétique bon marché, c'est une position politique aussi de dire, ben voilà, on fait pas du livre d'art, on fait ça avec les moyens du bord et un truc qui coûte rien. Voilà.
D'accord. Mais tu penses que toi tu l'acceptes donc, sans autre question, parce que tu dis par exemple c'est un a priori politique. Est-ce que ça coûtait vraiment meilleur marché? Est-ce que c'était vraiment plus? Est-ce qu'il y a rien de lié directement au départ dans le à produire de nouvelles formes? Ou est-ce que tu parles de ce système de diffusion? Le problème de si ces objets avaient été différents, entendus sur le plus répandu possible, on parle plutôt des circuits de diffusion, c'est pas dans la matière même de leurs objets que se révèle le circuit de diffusion, ou je me trompe? Parce que moi j'ai une idée j'ai l'impression que dès le départ on a accepté la forme quand même. J'en veux pour preuve d'autres types d'objets qui sont devenus emblématiques, qui sont alors pour le coup les catalogues d'exposition de Zeman, notamment à la même période le catalogue de Quand les attitudes deviennent formes, qui est ce système de classeurs qui est publié direct. Il y a, en plus on sait que ceux qui ont acheté le catalogue au moment du vernissage, ça c'est encore autre chose sur lequel on discutera, qui est le rapport entre l'objet papier, sa diffusion et le moment d'un événement commun. On sait que ceux qui ont acheté le catalogue d'exposition de Quand les attitudes deviennent formes lors du vernissage de la Kunsthalle ont un catalogue lacunaire, puisque certains artistes n'avaient pas rendu leurs feuilles perforées, puisque là on parle d'un classeur avec des feuilles perforées qui sont renéotypées, pas photocopiées à mon avis, renéotypées ou sérigraphiées. Donc le catalogue est lacunaire au moment du vernissage et se remplit petit à petit, ce qu'on a demandé un peu dans le même type de modèle aux artistes de remplir un quota donné de feuilles perforées qui prennent place dans un classeur, qui sera aussi le même coût à peu près de ce qui sera fait à la Documenta, pour le coup avec Ed Rocha qui fera le revêtement de mythique de ce catalogue de la Documenta 5 avec les petites fourmis qui courent sur un fond orange. Ce que je veux dire par là, c'est que toi tu penses sérieusement c'est new-yorkais, ont cette ambition politique et ne sont pas sur un système où ils se disent juste on cherche une voie pour se détacher de toute une tradition qui les ennuie un peu, pour être honnête.
Oui, je crois qu'il faut distinguer dans tout geste artistique entre la portée symbolique et l'effectivité de la chose. C'est-à-dire que il y a des artistes, par exemple, qui font des gestes qui ont un contenu politique. On peut toujours les attaquer sur le fait que un livre de sociologie ou un bon article dans une revue à grande diffusion sera plus efficace que ce qu'ils font. Donc la place de l'artiste, le terrain sur lequel il agit, c'est le caractère symbolique du geste. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut le juger. Donc quand des artistes s'emparent de moyens pauvres, ça a une signification symbolique. Après qu'on me dise, oui, mais finalement, il y avait de l'argent derrière tout ça, c'est un autre problème.
Je n'ai pas dû parler directement d'argent, j'ai parlé d'inventer une forme
oui.
qui se pose aussi en deçà ou en tout cas en regard d'autres choses qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a aussi ce moment où tu parlais de toute cette génération de jeunes artistes, ils ont une certaine conscience d'être ensemble à un moment critique et de, en commun, produire quelque chose qui se place en deçà d'une tradition, d'une réception, de circuits de diffusion.
Oui.
Et c'est juste ça que je...
Oui, je suis d'accord avec ça. Mais la dimension de jeu à l'intérieur du système artistique, c'est-à-dire, là, on est en tant qu'artiste, et puis on chie dans la colle, et on ne fait pas comme les autres, et on invente d'autres choses, c'est-à-dire ce discours qui s'adresse en premier... Au milieu de l'art, il est très présent, bien sûr. Okay. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Non, c'est juste parce que je trouve qu'après, on a produit, et c'était assez drôle ce que tu racontais sur Mathieu ou la conversation que vous avez eue, à savoir est-ce que ça l'était vraiment, et tout ça.
C'est un détail, mais enfin bon.
Oui, mais c'est témoin qu'à un certain moment, ces gens ont produit aussi une espèce d'objet fétiche comme ça.
Non, mais la fétichisation, excuse-moi, elle est arrivée après. Moi, j'ai acheté ces livres, y compris des tas de catalogues sur les artistes du début des années 70, disons dans les années 70 jusqu'à la fin des années 70. Je veux dire que tu allais au musée d'Eindhoven. Tu allais traîner à Amsterdam, tu achetais les bulletins d'Art and Project ou les expositions mythiques d'artistes conceptuels du musée d'Eindhoven, mais 10 ans après que ça s'était produit, ils en avaient encore des stocks, ils ne savaient pas quoi en faire. Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. Alors maintenant, on se dit, oui, mais alors il y a une surenchère, c'est devenu un objet fétiche, tout ça. Bien sûr. Maintenant, tu achètes ça sur le net, le Xerox Books, comme on le disait hier, ça coûte plus de 1000 euros. Mais ça valait rien. C'était à disposition. Il y avait 50 personnes que ça intéressait. Je veux dire que les stocks, le musée d'Eindhoven publiait ses catalogues à 500 exemplaires. 10 ans après, il y en avait encore des stocks. Vous imaginez le nombre de personnes au monde que ça pouvait intéresser. Donc la surenchère, c'est l'histoire de l'art qui est passée comme ça, comme un rouleau compresseur et qui a fétichisé les choses, tout ça. Et puis aussi le marché, parce que pourquoi ces petits livres ne sont pas réédités sans indication de quoi que ce soit et que ça coûte pas plus cher qu'à l'époque. C'est ça où il y a quelque chose de scandaleux et qui est biaisé à la fois artistiquement et politiquement. Le geste artistique a disparu parce que les artistes, les acteurs de cet épisode et de cette aventure ont laissé faire la spéculation. Ils n'ont pas tenu bon sur leur premier geste qui avait une valeur symbolique que moi je trouve très bien à l'origine.
D'accord. Un autre sujet. On est ici, donc, réunis plus ou moins en avance sur le vernissage d'une exposition consacrée à des éditions à Living Your Head. J'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur ce rapport entre le livre d'artiste, l'exposition, le livre-exposition, le livre-œuvre, tel que tu pourrais le lire dans les différents travaux de Seth Siegelhaum.
Je ne comprends pas très bien le sens de la question.
Est-ce que tu crois, par exemple, est-ce que déjà tous ces ouvrages, on en a regardé deux ensemble, ouais. Et on semble déjà voir un certain nombre de différences entre eux. Est-ce que, quel serait par exemple le rapport effectif, d'après toi, vu avec un peu de distance, entre sur cette notion de l'exposition de l'œuvre ou de ce livre-exposition ou de ces non-œuvres publiées. Je ne sais pas comment tu... est-ce que tu vois quelque chose là-dedans?
Je sais pas, si on reprend ces petits catalogues de Siegelhaum, là... D'abord, il y a une espèce de concision. Il n'y a pas d'appareil bureaucratique. D'abord, on est frappé par le fait que Il n'y a pas tous les coupeurs de ruban qui apparaissent dans le colophon ou l'ours d'un catalogue pour dire que monsieur machin, qui était directeur de trucs, a permis aux artistes de faire cette exposition, etc. On n'a rien de tout ça. Donc ce sont des publications qui, là, encore une fois, on retrouve la valeur d'un geste d'artiste, qui sont c'est le plus sec possible.
Ce qui n'est pas le cas, par exemple,
Il n'y a pas de baratin autour. Aujourd'hui, quand on nous fait des livres d'artistes et qu'une école d'art s'empare du truc, on surenchérit sur le fait que, voilà, il faut mettre les logos et compagnie et compagnie. Ça n'existe pas, ça. Donc aujourd'hui, on n'a rien compris par rapport à ça. On est dans la totale régression.
On peut nuancer quand même, parce que quand je te donnais l'exemple de Zeman, dans les catalogues de Zeman, il y a tous les colophons, il y a tous les remerciements, il y a des publicités. Donc,
oui, mais je ne le place pas sur le même plan que Ziglob. D'abord, il s'est lancé dans de très grosses opérations où forcément il y avait de l'argent, il fallait trouver des sponsors, et je veux dire, ils apparaissent, Philippe Maurice pour la Documenta de 72, etc. Je veux dire, on n'est pas sur le même registre.
Non, je t'offrais juste un objet comparatif dans le même timing, avec plus ou moins le même type d'artiste concerné.
Oui.
Anyway, vas-y, alors... Donc on a un espèce d'objet neutre.
Moi, je crois qu'il faut revenir à la valeur plastique et politique de ces petits livres ou de ces catalogues. La neutralité, bien sûr, rien n'est neutre. On pourrait toujours dire que le blanc dans une salle d'exposition, c'est pas neutre, c'est un geste comme un autre. Et ça, là, finalement, on peut l'analyser au même titre qu'on peut analyser le gris, la toile de jute ou les plaintes dans les musées anciens, etc. Bon, tout a une signification. La neutralité n'existe pas. Il y avait, disons, sur un plan symbolique, par rapport à tout ce qui existait auparavant, une volonté d'afficher une neutralité, d'être un petit peu minimal, qu'il n'y ait pas d'appareil institutionnel, que les choses soient présentées le plus simple possible. Les idées, elles sont véhiculées par des choses les plus tenues, c'est-à-dire il y a une photo et un texte, par exemple, dans l'exposition du 5 janvier, au 31 janvier 69, là, qui est le premier catalogue de groupe. Donc ça commence, il y a les quatre noms de l'artiste, Barry, Hubler, Kossuth, Wiener. Ensuite, chacun a un texte, une ou deux images, ça se succède sans commentaire, il n'y a pas de légende, le texte véhicule les idées. L'image, elle est là à titre un petit peu d'indice. C'est un indice tout à fait fragmentaire, parce que si on regarde l'équivalent en termes d'œuvres, par exemple, pour Hubler, le même texte avec ses œuvres, c'était certainement quelque chose qui était plus développé au mur. Donc il y a une qualité un petit peu de gestes fragmentaires dans ces choses. Mais si on voit par exemple la prestation de Wiener, alors ça se présente là comme un catalogue. Il y a du numéro 25 au numéro 32, donc 7 œuvres, 8 pardon, de Wiener avec l'énoncé. Et puis il y a une photographie de choses. Il y a le fameux truc avec le spray sur une porte de je sais pas quoi, de garage. Une photographie de sol, je ne sais plus quelle pièce ça renvoie. Et puis ça se termine par l'énoncé fondamental de Wiener que tout le monde connaît, c'est-à-dire que l'artiste peut faire l'œuvre, que l'œuvre peut être fabriquée, sous-entendu, par quelqu'un d'autre, et trois, que l'œuvre peut ne pas l'œuvre, alors la pièce, une distinction entre œuvre et pièce, que la pièce peut ne pas être fabriquée. Ces trois propositions ayant une même valeur. Donc ça, c'est son énoncé fondamental qui permet de jouer avec tous ces énoncés. Voilà, donc c'est hyper, hyper sec, hyper simple. La couverture, c'est juste la date. Dans le choix des titres aussi, c'était très important. C'était un des gestes de Ziglob, il invente ça. Les titres, c'est la liste des artistes et la date. Autre titre, juillet, août, septembre 69. Autre titre, juillet, août, exposition, livre. Alors, le dernier mérite un commentaire différent, puisqu'il a été fait en collaboration avec je ne sais plus quelle revue, Studio International, voilà. Là, Ziglo pousse un petit peu le bouchon plus loin, puisque il annonce que le livre sera l'exposition. Donc là, il y a un geste de substitution de la production livresque qui est dénoncé au fait même d'une existence physique d'une exposition dans un espace donné. Il n'y a pas d'exposition. Et les artistes sont aux quatre coins du monde et ont envoyé leur production à distance. Voilà. Quoi d'autre? Une question?
Non, mais ça m'intéresse quand même. J'aimerais bien essayer de comprendre ce qui, cette espèce. Tu passes assez rapidement sur l'exposition livre, mais pourquoi pas faire simplement un livre? Enfin, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a cette nécessité encore de l'exposition? On pourrait très bien dire, ok, on fait un livre, on est les artistes conceptuels, on fait un livre.
Alors, là, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut être du côté de Wittgenstein, deuxième période de sa philosophie. C'est-à-dire que les mots, le sens des mots, c'est l'usage des mots. À partir du moment où on est dans cet entre-deux, où on dit le livre vaut l'exposition et on joue sur les deux, c'est une affaire d'entente sur ce qu'est une exposition. Si on dit par exemple que ce livre, c'était l'exposition, il faut s'entendre sur cette déclaration. Si on admet ce jeu, ce glissement sémantique, la valeur du geste est dans le glissement sémantique et de l'acceptation de ce glissement. Après, on pourra bien dire épiloguer, mais on sera plus du tout du côté de Wittgenstein, dire oui, mais c'était pas une exposition, c'était un livre. Hein, voilà. On accepte un énoncé ou on l'accepte pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord pour s'entendre sur accepter le geste de Ziglob qui dit ce livre, c'était l'exposition. C'est simplement d'accepter cet énoncé. Il n'y a pas de valeur en soi de dire l'exposition, c'est pas ça. On va pas être dogmatique pour dire une exposition, c'est quelque chose. Il y a des usages du mot exposition. C'est là où il faut être du côté de Wittgenstein. Et il y a un usage du mot exposition qui glisse dans la production du
Il
livre.
n'empêche que si tu avais dit livre en tant et que tu considères Seth Siegelhoff en tant qu'éditeur,
Oui.
son rôle n'est pas le même que si tu dis livre-exposition et où tu te considères curato-éditeur.
Oui, mais c'est pour ça qu'il est reconnu, parce qu'on accepte ce jeu de langage, pour employer un terme de Wittgenstein, encore une fois, on accepte ce jeu de langage et il est connu et reconnu en tant que curateur, que commissaire d'exposition, ou critique d'art, et non pas comme éditeur.
D'accord. J'ai une dernière question qui est peut-être un peu qui est peut-être légèrement perpendiculaire à ce sur quoi on vient de parler, mais est-ce que toi, avec le recul, tu pourrais tenter d'expliquer pourquoi l'Europe, c'est-à-dire pourquoi ce mouvement qui est essentiellement new-yorkais, qui est même essentiellement new-yorkais au sens, pour moi, tel que je le comprends à distance avec ma petite pensée européenne, il est aussi essentiellement critique d'une certaine histoire de l'art américain qui est en train de s'affirmer comme ça dans l'après-guerre avec un certain nombre de choses qui sont pour le coup du registre soit de la peinture, soit de la sculpture, et donc qui devient l'objet dominant. Ultra diffusé, ultra prégnant, ultra cher, ultra visible. Pourquoi ce monde-là s'est dit, il fallait qu'on retourne en Europe, ou il fallait qu'on y aille à Amsterdam, Peut-être que je vois ça complètement de
Non,
manière fausse.
non, non, le problème existe, enfin, les faits existent. C'est-à-dire que la réception de l'art conceptuel a existé parce qu'il a été porté par des collectionneurs et des conservateurs de musées ou de directeurs de Kunsthallen européens. Ça, c'est très très important. La réception aux États-Unis, elle n'est pas énorme. Encore qu'il y a quand même un certain. Les premières expositions de musées sont aux États-Unis. Art as ID, Conceptual Art and Conceptual Aspect, ou Information, ou l'exposition de Chili Pard qui portait les coordonnées en latitude et longitude du pays où c'était exposé. Bon, mais en termes de débouchés des artistes, de collectionneurs, etc., ils ont eu vraiment une écoute, une réception importante du côté européen. Par exemple, il y a des choses qui sont faites avec des collectionneurs comme Hermann Dahled, les musées de Mönchengladbach, la Kunsthalle de Berne, le musée d'Eindhoven sont des lieux où tout ça est montré et de façon régulière. Il y a la galerie Art and Project à Amsterdam. Donc il y a immédiatement une espèce de réseau qui se forme en Europe et qui est certainement plus engagé, plus serré, plus engagé, ouais, avec ces artistes, qu'il n'existe sur ce terrain un réseau américain. Ça, je crois que l'Europe a joué un très grand rôle dans la réception d'art conceptuel. Mais j'ai pas d'explication à ça, je sais pas.
Je te remercie. j'espère qu'on vous a donné quelques vagues clés pour écouter Monsieur Seth Siegelhoff ce soir. On n'a pas abordé ce qui va être quand même le sujet de la conférence, et peut-être tu aurais quelques remarques sur une autre partie de l'activité de Seth Siegelhoff, qui consiste à avoir à un certain moment tenté une conciliation juridique sur les statuts des artistes et des parties prenantes par rapport à la diffusion des œuvres d'art. Je ne sais pas si toi tu avais une remarque générale à faire ou quelques clés à donner.
Disons que en France, ce travail a été reçu parce qu'il a été, diffusé, défendu par Michel Flora, par Daniel Buren. Je rappelle que Michel Flora, qui est le commissaire de l'exposition 18 Paris 4, dont le catalogue est édité par Ziglobe en 70, est un juriste, il est avocat, je crois. Donc c'est des gens qui s'intéressent à cet aspect. Daniel Buren lui-même a mis en œuvre ça avec tout un système où quand tu achètes une œuvre de Daniel Buren, en fait, tu t'engages contractuellement pour respecter les conditions de monstration. Et plus que ça, il a un dispositif pour qu'il y ait une suite, c'est-à-dire en cas de vente, de revente de l'œuvre à un autre collectionneur ou à un galériste, Buren a un retour et sait quel est le nouvel acheteur et peut contrôler l'utilisation et la présentation de son travail. Donc il y a eu un écho très favorable de ce travail, donc si on traduit mot à mot, des droits réservés de l'artiste. Sur Wikipédia, la Ziglobe, ils sont traduits par la réservation des droits de l'artiste. Donc c'est les droits réservés. Sur le fond, moi, je suis un peu, réservé par rapport à ça, parce que je considère, en fait, que c'est quelque chose qui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui voulait défendre le droit des artistes, simplement qui s'inscrit entièrement dans le droit américain du copyright. Et de ce point de vue-là, j'ai une position européano-centriste, qui est de défendre le droit d'auteur. La différence, elle est très très importante, c'est que dans le droit du copyright, si tu vends ton œuvre d'art, tu vends tout. Dans le droit d'auteur, tu peux tout, tu conserves ton droit moral, tu ne peux pas l'aliéner. C'est-à-dire que même si tu signes que tu vends tes droits d'auteur, ça n'a pas aucune valeur. Si par exemple tu meurs et que tu as des héritiers, ils pourront toujours intervenir si ton œuvre est mal exposée. Ils possèdent un droit moral sur l'œuvre. Et dans le droit du copyright, ceci n'existe pas. C'est un point très très important. Et dans la mondialisation que nous sommes en train de vivre, si nous nous faisons bouffer par le copyright, nous allons perdre le droit d'auteur. Et c'est un truc essentiel pour les artistes. Alors je veux bien qu'on fasse des contrats pour réserver le droit des artistes. mais ça équivaut à amender un petit peu le copyright. Le fond du problème, c'est que le copyright, c'est un truc qu'il ne faut pas accepter. Voilà, ça c'est ma polémique.
Merci. Voilà. Merci.
Terme juridique.